1,0034€ le litre de E85. Voilà. Bah c'est tout. 1,0034€ le litre de carburant.
À ce prix-là, tout est dit. Avec Ford, le seul constructeur à proposer une gamme hybride E85 complète, faites des économies à chaque plein. Ford. Prix moyen national pour octobre 2023, constaté via la base de données des prix écologie.gouv.fr, prix sujet à variation. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Du quatrième pouvoir, celui des médias, la radio a été, en plusieurs moments de l'histoire du XXe siècle, un puissant moyen d'influence sur les opinions publiques qui joua un rôle important, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale. S'il est un programme de ce temps-là resté gravé dans notre mémoire, c'est bien celui qu'émettait en langue française la BBC du 19 juin 40 au 25 octobre 44, Radio Londres. Radio Londres, c'était 6 bulletins d'information quotidiens et 2 émissions. Les Français parlent au français, placés sous l'autorité du gouvernement britannique, et Honneur et Patrie, sous la responsabilité de la France libre du général de Gaulle, dont le porte-parole était Maurice Schumann. Les voix de Radio Londres, c'était alors notamment celles de Jacques Duchesne, Jean Oberlé, Jean-Louis Crémieux-Briac, Pierre Bourdan, celles de Jean Marin Yves Morvan, de Pierre Lefebvre, de Jacques Brunus et du plus loufoque de ses chroniqueurs, Pierre Dac. En 1998, dans le cabinet de curiosité, pour une série consacrée à l'influence du quatrième pouvoir dans l'histoire, en historien et en homme de médias, Jean-Noël Jeannet revenait sur la guerre des ondes que Radio Londres mena pendant 4 ans contre la politique et la propagande de l'occupant et du régime de Vichy. Le quatrième pouvoir, Radio Londres, des Français parlent au français, 3e d'une série de 5 émissions proposées par Vincent Kivy, diffusée pour la première fois le 21 janvier 1998 sur France Culture.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Radio Londres, des Français parlent aux Français, l'information comme arme de combat. Il n'est pas un livre, un film d'époque qui ne fasse référence à ces voix d'outre-Manche, à ces émissions mal captées au milieu des grésillements, des sifflements et des brouillages, des bombardements. à ces appels radiodiffusés qui, loin de Paris, appelaient les Français à la résistance. Ces messages personnels, dénués de tout sens apparent, ces radiopariements où ces Français parlent aux Français, dont les échos errent encore dans les mémoires collectives. Ici Radio Londres. C'était en plein combat, au cœur de cette seconde guerre mondiale qui voyait s'affronter d'incroyables armadas militaires, le pouvoir des ondes et des voix, le pouvoir des mots. Au-delà des bruits des canons, il fallait informer pour convaincre, pour vaincre. Et loin des journaux étroitement surveillés, bien avant la télévision, la radio demeurait l'un des rares moyens de toucher l'opinion. Une arme formidable, un nouveau pouvoir. Jean-Noël Jeannet, historien, ancien président de Radio France.
À partir des années 30, beaucoup d'observateurs de l'époque, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de publicistes se sont emparés de ce nouveau média, la radio, pour réfléchir à son impact. Et on a vu toute une série d'ouvrages paraître qui expliquaient que c'était d'une certaine façon une arme absolue, que qui tiendrait la radio tiendrait l'esprit des citoyens. Nous voyons cela très clairement dans le fameux livre de Malaparte, Technique d'un coup d'État, où il explique que désormais, quand on voudra s'emparer du pouvoir, il faudra envoyer ses sbires du côté des antennes et du côté des studios. On le voit aussi dans le livre à l'époque fameux de Tchakotin, qui s'appelle Le viol des foules par la propagande. L'idée est qu'on peut se saisir des âmes et les modeler à son gré. Il faut bien reconnaître d'ailleurs que dans les années 30, un certain nombre d'épisodes avaient marqué des sortes de guerres des ondes avant celle de du deuxième conflit mondial. Je pense par exemple à ce qui s'est passé entre l'Autriche et l'Allemagne nazie entre 1933 et 1938. Une véritable guerre d'une grande violence jusqu'à ce que finalement ce soit les Allemands qui gagnent et s'emparent de l'Autriche avec l'Anschluss. On a vu la même chose au moment de la guerre d'Espagne où les deux camps, les républicains et les putschistes, rivalisaient d'influence cathodique, comme nous dirions aujourd'hui, sur les ondes, sur les antennes. On l'a vu aussi avec l'utilisation que Mussolini en a fait au moment de la guerre d'Éthiopie. Tout cela est donc constitué des précédents à ce qui se passe à partir de 1939. Mais il est vrai que c'est la Deuxième Guerre mondiale qui, d'un seul coup, vient révéler au monde à quel point cette arme compte, à quel point elle pèse et à quel point aussi elle peut être chargée de mythes sur son influence.
Ce matin, un grand nombre d'avions ennemis ont franchi la côte près de Douvres en deux vagues successives. Ils furent rapidement attaqués par de puissantes formations de chasseurs britanniques et une bataille aérienne s'ensuivit. Deux petits groupes d'avions ennemis parvinrent jusqu'à Londres et lancèrent des bombes, notamment sur le palais de Buckingham, qui fut à nouveau atteint. On est certain ce soir qu'au moins 175 avions ennemis ont été abattus. 30 de nos chasseurs ne sont pas rentrés, mais 10 de nos pilotes sont sains.
Est-ce que ça voulait dire que justement l'opinion avant-guerre cherchait à avoir des radios? Est-ce qu'ils étaient effectivement à l'écoute? Est-ce que ça avait véritablement une influence bien plus grande que la presse écrite, par exemple, qui était quand même considérable à l'époque?
La radio est très largement répandue au moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale.
Jean-Noël Jeannet.
Les postes qu'on écoute en famille font désormais partie de la vie quotidienne dans tous les pays occidentaux avec un développement inégal. Mais il est évident que c'est très important. En revanche, la réflexion est encore en cours sur son rôle quant au fonctionnement de la démocratie et surtout quant à ce rôle international pour aller porter chez l'adversaire les mots d'ordre de son influence et de sa propagande. Et comme toujours d'ailleurs, quand il y a un média nouveau, il y a une mythification de son rôle. On a tendance à l'exagérer, à penser que c'est l'arme absolue. Et puis on constate aussi des rumeurs fantasmatiques sur cette influence. Par exemple, au moment de la drôle de guerre, on voit en Grande-Bretagne se développer l'influence d'un personnage qui s'appelle Lord Ho-Ho. C'est son H-A-W, c'est un pseudonyme qui, à partir de l'Allemagne nazie, émet en anglais vers l'Angleterre et que, au moins jusqu'en septembre 1939, il est relativement snob d'écouter, car il est très informé sur la vie quotidienne de la Grande-Bretagne. À partir du début de la guerre, le patriotisme exige qu'on ne l'écoute pas. Du côté français, il y a eu, au moment de la drôle de guerre, un mythe qui a entouré un personnage étonnant qui s'appelle Ferdonnet. Ferdonnet, c'est l'archétype mythique du traître. du trait qui est allé porter au service des Allemands un certain savoir-faire et qui incarnerait aussi ce qu'on appelle la cinquième colonne à l'époque, c'est-à-dire une capacité d'intrusion souterraine dans le fonctionnement de la société et dans l'ensemble de la circulation de l'information. Ferdonnet, on ne l'a pas vraiment écouté en réalité parce qu'il ne parlait pas lui-même au micro, mais on a cru qu'on l'avait écouté. Et l'ensemble de la presse française se met à développer autour de ce personnage une sorte de halo de mystère et d'influence excessive. Vous voyez, tout ça, ça se mêle toujours la réalité et le mythe. Et un homme comme Goebbels, qui est le ministre de l'information de Hitler, a théorisé tout cela très clairement. Il a mis systématiquement en place des radios dans les langues des pays envahis progressivement par le Reich. Et on le voit au moment de la débâcle, au moment où il entre progressivement en France, chaque fois qu'il le peut, s'emparer des nouveaux émetteurs pour de nouvelles émissions. Et il s'est vanté, après la victoire d'Hitler, après l'effondrement de la France, que sa radio, ainsi utilisée, ait été, d'une certaine façon, l'arme absolue. C'est aussi un peu du col, en réalité, car les chars et la stratégie de Hitler ont compté davantage, à vrai dire, que la radio. Mais il est vrai que, par exemple, il s'empare tout de suite, dès qu'il le peut, du grand et puissant émetteur d'Alouis, au centre de la France, qui avait été installé par la Troisième République et qui permet d'émettre en ondes courtes, très loin, tout autour de la planète. Donc vous voyez qu'au moment où s'installe la situation de la France occupée et où de Gaulle, le 18 juin, vient marquer que Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis, que Rome... la France, désormais, existe, peut parler, au moins symboliquement, hors du territoire français. À partir du moment où il y a ces deux France face à face, celle de Vichy et celle de la France libre, la radio, d'un seul coup, prend une importance essentielle et va à la fois incarner et renforcer l'opposition de ces deux philosophies, de ces deux France face à face.
Ne va pas en Allemagne, ne va pas. 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 En Allemagne.
Est-ce que ça tient pas aussi au fait que dans cette période de guerre, les journaux sont peut-être moins faciles à éditer, à publier, à diffuser qu'au cours de la période précédente?
Vous avez tout à fait raison de le dire, c'est un élément essentiel. La presse est à la fois handicapée pour des raisons matérielles évidentes, le manque de papier, la dispersion des rédactions sur les routes, et en même temps asservie, avec des degrés divers dans l'ignominie, mais la France... occupée, la France de Vichy connaît désormais des journaux qui sont tout prêts à se vautrer dans l'idolâtrie du maréchal, tout prêts à rejoindre dans la zone nord une adhésion à l'occupant. Bref, la presse écrite perd beaucoup de son crédit auprès des lecteurs et du même coup la place est libre pour une influence de la radio. L'idée que on peut entendre des nouvelles, des sons, une présence presque charnelle de gens qui échappent à l'oppression de l'occupant et que ça vient par le miracle des ondes, c'est fondamental. D'une certaine façon, l'écoute de la BBC, dans l'échelle de la résistance, c'est le premier échelon pour beaucoup de Français. Dans la mesure où c'est interdit, écouter la radio de Londres, la radio anglaise en langue française, écouter les émissions que la BBC autorise la France libre à faire sur ses antennes, c'est déjà... une forme de protestation. Et c'est là qu'on voit tout le rôle que va jouer la stratégie de la BBC et de Churchill, car c'est la volonté de Churchill, ouvrant ses antennes à De Gaulle et à son mouvement.
Alors précisément, concrètement, comment se crée cette antenne française à Londres, cette antenne radiophonique?
Il faut savoir que, autant avant le début de la guerre, la BBC avait été très faible du point de vue de ses émissions vers l'extérieur, ses émissions en ondes courtes, plus faible naturellement que l'Allemagne, mais même plus faible que la France, où le grand ministre qui avait été Georges Mandel avait, dès les années 35, installé tout un système de diffusion d'informations dans les colonies et par ondes courtes. En revanche, la Grande-Bretagne, jusqu'en 1939, avait été médiocre à cet égard. Elle se contentait du prestige et de la force de la BBC à l'intérieur des îles britanniques. En revanche, dès la guerre éclatée, la BBC a systématiquement développé ses émissions dans un grand nombre de langues, et en particulier en français, vers la France. Et lorsque, le 18 juin 1940, ce général de brigade à titre provisoire, Charles de Gaulle, vient faire cet acte génial et fou, qui est de venir affirmer à la face du monde et de la nation française que on a perdu une bataille et qu'on n'a pas perdu la guerre, quand il vient affirmer que lui, obscur personnage, va incarner la France, pas seulement un chef militaire, incarner la France et incarner la conviction qu'un jour, on se revanchera sur l'occupant et sur les nazis, il trouve un autre génie en face de lui, et c'est Churchill. Leurs relations seront toujours très troublées, très compliquées. Naturellement, ça ne pouvait être que rugueux. Mais d'entrée de jeu, Churchill fait confiance. À De Gaulle, il donne l'ordre qu'on lui ouvre les antennes. Et c'est l'acte fondateur, une importance formidable, qui est l'appel du 18 juin. Qu'on peut d'autant plus mythifier que, par le fait de la pagaille du moment, le fait de la hâte, quelqu'un omet de mettre le disque mou sur lequel d'ordinaire on enregistrait les événements importants, et qu'on n'a pas, on ne peut pas écouter l'appel du 18 juin. Si vous le faisiez entendre à vos auditeurs, vous les tromperiez, ce serait en fait un appel de quelques jours ultérieurs. Au fond, c'est aussi bien ainsi. Et naturellement, De Gaulle a toujours refusé ultérieurement de vouer après coup son appel. Moment fondateur qui répond un jour après à l'appel de Pétain, survenu au pouvoir le 17 juin, le soir du 16, et qui vient déclarer de sa voix à la fois claire et un peu chevrotante à l'opinion qu'il est temps de cesser le combat. C'était l'annonce de la demande de l'armistice. Et ces deux discours essentiels, fondamentaux, symboliques, du 17 juin Pétain, du 18 juin de Gaulle, viennent d'un seul coup marquer la naissance d'une nouvelle guerre franco-française.
Allons, bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra, elle se lèvera, brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert, glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France! Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu et marchent vers les temps meilleurs.
Il faut voir que
Jean-Noël Jeanneney,
Churchill a souhaité que l'on laisse aux Français une demi-heure par jour, c'était beaucoup, pour une émission qui s'est appelée peu de temps après « Les Français parlent aux Français » et qui, pour beaucoup de nos compatriotes, ceux qui ont aujourd'hui plus de 65 ans, continue à demeurer l'incarnation d'une résistance française venue de Londres. Et puis chaque jour, il y avait 5 minutes concédées à De Gaulle lui-même, précédées par le fameux indicatif « Honneur et patrie », et où parfois le général lui-même s'exprimait, c'est arrivé souvent, et où au quotidien des jours, c'était d'ordinaire Maurice Schumann, porte-parole prestigieux et lyrique de la France libre, qui chaque jour venait dire ce regard qui était celui de la France libre sur les événements du moment. Donc il y a ce rôle de la radio, de la BBC, de la France au micro anglais, qui est d'information bien sûr. Ça, il faut en parler. Et comme la BBC, comme les Anglais, comme les bulletins d'information en français sous la responsabilité de la BBC, il y a eu d'entrée de jeu un parti très important qui a été pris, c'est de ne pas cacher les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, et on l'annonçait comme tel, qu'on a pris la décision de dire aussi ce qui n'allait pas. C'était très important parce que le jour où on annonce que ça va mieux, alors on est cru. Mais la radio n'a pas joué que ce rôle-là dans cette période. Elle a été aussi, bien sûr, une arme de guerre. Elle a pu diffuser un certain nombre de mots d'ordre. Par exemple, dès le début de 1941, le général de Gaulle lui-même souhaite qu'on incite les Français à ne pas sortir de chez eux à un moment donné de l'après-midi pour marquer une sorte de protestation muette. C'était pas un très grand péril, mais ça a assez bien marché, surtout dans une partie de la France, du côté de l'ouest de la France. À d'autres moments, on a lancé la campagne des V. Il s'agissait d'inscrire à la peinture des V avec une croix de Lorraine, si possible, à l'intérieur des deux branches. C'est une initiative qui avait été lancée par les Belges et qui a été reprise. On sait aussi que la BBC a joué un rôle très important dans les relations entre Londres et la résistance intérieure, avec tous ces fameux messages qui servait à donner des indications sur les bombardements, sur les parachutages d'armes, sur les jours où on allait venir rechercher avec des petits lisandaires les résistants. Je dirais que la radio a joué peut-être un rôle plus grand encore en permettant jour après jour à la France libre elle-même de se cristalliser, de se créer, de se regarder elle-même en mouvement. Elle lui a donné sa forme et sa réalité, y compris pour ses propres combattants. Et c'est pour ça que tous ces grands personnages, j'ai déjà cité Maurice Schumann, mais il faut citer les aussi ceux qui ont travaillé pour les Français parlent au français, les Oberlé, les Gillois, Pierre Bourdan, Pierre Dac.
Aïe, 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 ça descend. Aïe, mein Führer, qu'est-ce qu'on prend? Aïe, 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 ça descend. Aïe, mein Führer, qu'est-ce qu'on prend? Aïe, 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 ça descend. Aïe, mein Führer, qu'est-ce qu'on prend? Aïe, 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 ça descend. Aïe, mein Führer, qu'est-ce qu'on prend?
Il y a eu, par les antennes, symbolisation d'un affrontement. Le dialogue, au fond, entre Maurice Schumann d'un côté et Philippe Henriot de l'autre reste symbolique. Philippe Henriot, c'est un homme d'un grand talent qui, à la fin de la période de Vichy, est nommé secrétaire d'État à l'information et qui, il faut bien le dire, c'est clair encore quand on l'entend sur les vieux disques, est capable de déployer au micro un talent rhétorique, une voix efficace qui fait de ses éditoriaux bi-quotidiens, il parlait tous les jours à 12h40 et à 19h40, un élément très très important de la guerre de propagande. C'est d'ailleurs pour ça que les résistants ont décidé de l'abattre et qu'il a été tué à son domicile à la fin de la période. Mais chaque jour, par-delà la Manche, Maurice Schumann d'un côté, parfois ça a été aussi Pierre-Olivier Lapy, mais généralement Schumann, et Philippe Henriot, à qui succède après sa mort Errol Pakis avec moins de talent, ces deux hommes-là viennent échanger avec une grande conviction, avec une grande force de philosophie, de vision de la guerre, des idées du pays. Et la France a été à l'écoute de cela et a pu progressivement rejoindre ce que de Gaulle et les siens incarnaient. La BBC, dans toute cette histoire, a compté, a pesé, et après tout, il est assez légitime que dans la mémoire collective, ses musiques, ses sons, sa tonalité demeurent si prégnantes.
Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand.
Il faut savoir que Pétain attachait énormément d'importance à la radio. Il s'est fait faire installer à l'Hôtel du Parc un studio spécial. On a des films de lui. Il a enregistré beaucoup de messages importants. Il apportait à leur rédaction beaucoup de soins. Il avait utilisé des nègres prestigieux. Par exemple, au tout début, c'est le grand écrivain, un grand personnage qui a été Emmanuel Berle, qui avant de comprendre a accepté de jouer le rédacteur d'un certain nombre de messages. C'est lui par exemple qui a inventé ces formules qui ont fait mouche. On dit aujourd'hui que les petites phrases l'emportent dans la vie politique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est bien antérieur à la télévision. Déjà à l'époque de la radio, on avait été frappé par des phrases comme « Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal » ou bien « La terre, elle, ne ment pas ». Ces mots, ces formules qui cristallisent une sensibilité, un moment de l'opinion pétainiste. Donc les discours, les allocutions de Pétain sont importantes et comptent. Et il y attachait beaucoup de prix, de même qu'il a surveillé d'assez près, non pas Radio Paris, qui au nord était entièrement sous la coupe des Allemands, qui était tout à fait asservi. Non, mais Pétain avait en main la radio nationale qui était à Vichy et a tâché d'en faire un instrument de propagande à la fois à l'intérieur et aussi en direction de celle des colonies françaises qui étaient demeurées sous sa coupe.
J'ai des choses à vous dire. De plusieurs régions de France...
Des choses graves.
Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France... Je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Les ordres sont souvent mal exécutés. Dans une atmosphère de faux bruit et d'intrigue, les forces de redressement se découragent. D'autres tentent de se substituer à elles qui n'ont ni leur noblesse ni leur désintéressement. Mon patronage est invoqué trop souvent même contre le gouvernement, pour justifier de prétendues entreprises de salut qui ne sont en fait que des appels à l'indiscipline. Un véritable malaise atteint le peuple français. Les raisons de ce malaise sont faciles à comprendre. Aux heures cruelles succèdent toujours des temps difficiles. Lorsqu'aux frontières d'une nation que la défaite a mise hors de combat, mais que son empire laisse vulnérable, la guerre continue, ravageant chaque jour de nouveaux continents. Chacun s'interroge avec angoisse sur l'avenir du pays. Les uns se sentent trahis, d'autres se croient abandonnés. Certains se demandent où est leur devoir, d'autres cherchent d'abord leur intérêt. La radio de Londres et certains journaux français ajoutent à ce désarroi des esprits. Le sens de l'intérêt national finit par perdre de sa justesse et de sa vigueur. De ce désordre des idées naît le désordre des choses. Est-ce vraiment le sort qu'après 13 mois de calme, de travail, d'incontestables reprises, la France a mérité?
Alors est-ce que c'est le poids et l'importance de ces radios qui a fait qu'après-guerre, finalement, les pouvoirs en place, plus démocratiques, ont continué d'utiliser et de s'appuyer en quelque sorte sur les radios?
Les radios ont eu, en particulier celles que nous avons évoquées, un grand rôle pendant cette guerre. C'est indubitable. Toute guerre est aussi une guerre psychologique. Ils ont joué un rôle considérable, ces postes de radio, mais l'influence a été exagérée, mythifiée par les résistants, comme par les autres. On le comprend, étant donné ce qu'avait représenté la radio de Londres. Et du même coup, pour toute une génération d'hommes politiques, et même au fond de journalistes, il est apparu assez naturel qu'en 1944, on installe en France un monopole de la radio d'État. Cette radio qui a eu beaucoup de prestige, beaucoup de mérite, beaucoup d'influence, 45-58, la radio de la 4e République, cette radio apparaît de ce point de vue-là très lointaine par rapport à nous. Je dirais que, heureusement, ça a fait beaucoup de progrès. Vous, les journalistes de Radio France, vous ne vous considérez pas comme des journalistes d'une autre nature, d'une autre essence que les journalistes de la presse écrite. À l'époque, ça paraît naturel et à tout le monde. Et naturellement, l'opposition critique certaines exagérations de l'emprise du gouvernement en place sur les micros. Mais comme de toute façon, il y a de l'instabilité ministérielle, que en dehors des extrêmes, le RPF de Gaulle et le Parti communiste qui sont très vite exclus entièrement des antennes, il faut le savoir. Tous les partis, les formations qui, du centre-gauche au centre-droit, gouvernent le pays, trouve assez normal, en somme, qu'on se serve de la radio à l'intérieur et à l'extérieur pour servir une certaine idée de la défense du régime, la 4e, et une certaine idée de la France au dehors, jouant son rôle dans la guerre froide qui domine la planète à ce moment-là.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
Le moral allemand est presque par terre.
Le moral allemand,
il a bien baissé.
Le moral allemand,
vous pouvez tout faire.
Le moral allemand,
pour le dégonfler.
Le moral allemand est presque par terre.
Le moral allemand,
il a bien baissé.
Le moral allemand,
vous pouvez tout faire.
Le moral allemand,
pour le dégonfler.
Cabinet de curiosité, le quatrième pouvoir, avec Jean-Noël Jeannenet, auteur de Une histoire des médias aux éditions du Seuil, Archivina Martine Auger, avec les voix de Charles de Gaulle, Winston Churchill, Pierre Dac et Philippe Pétain. Cabinet de curiosité, Éric Boissé, Christian Prévost, Malika Mesgache et Vincent Kivy. Thank you.
Cette émission a été diffusée la première fois le 21 janvier 1998 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.